Bienvenue au Polysécur, épisode spécial Sécur. Je suis avec Martin. Comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi?
Très bien aussi. Tu es venu au Sécur présenter un sujet, à mon sens, très intéressant. Puis on était d'ailleurs très enchanté de l'accepter parce que sa présence, ça remet l'humain au centre de la cyber. Puis on oublie souvent que l'humain a une place très importante en cyber et c'est lui qui opère essentiellement. Et tous ces éléments-là, et dans le fond, tu as présenté un peu tes découvertes essentiellement qui te sont un peu brutalement arrivées au visage, je crois que c'est en 2023, 2022, où tu as eu un constat assez brutal, comme probablement plusieurs autres en cyber ont eu d'ailleurs pendant ces périodes-là, notamment, ou avant, tout dépendant, on n'a pas une énergie infinie, qu'on a une énergie finie, et qu'il faut la gérer conséquemment, cette énergie-là, et ne pas se laisser emporter. Donc, tu as amené le concept de batterie. Mm-hmm. Puis, je trouve ça très intéressant, même si tu disais dans ta présentation que c'est controversé comme image, il demeure que c'est la façon, comme moi je le vis d'ailleurs, de l'exprimer pour qu'on véhicule une idée. Tu as abordé aussi de plus en plus tout le volet décisionnel qui est associé à ce genre de choses-là. Puis, dans ta présentation, tu abordais un peu moins sur ton sens personnel. Qu'est-ce que tu as fait comme choix? Comment tu as limité dans ta vie personnelle, incessamment et professionnelle par la suite, cette surcharge de décisions-là pour t'amener à une zone de plus grand confort et de plus grande disponibilité?
C'est une super question. Je vais essayer d'y répondre le mieux que je peux. En fait, pour commencer, c'est vraiment une question de structure. J'ai jamais été, je l'ai dit là, dans la présentation, je suis pas le gars le plus structuré dans la vie. Je suis un peu plus dans le... J'aime improviser, j'aime pas avoir de plan, j'aime essayer des choses, de faire à ma façon. J'ai pas peur de me planter puis essayer des différentes itérations pour arriver à mes fins. Cela dit, quand on gère une équipe de 30 personnes, ben là, ça devient un petit peu plus problématique si on laisse notre instinct tout le temps nous guider. Donc, moi, d'entrée de jeu, je peux te dire, dès que j'ai eu ma promotion, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me lever plus tôt. Okay? Mon cadran, il était à 6h du matin. Puis mes journées commençaient à 6h30. Je me faisais un café. Je me prenais le temps de me réveiller, je me faisais un café. Puis c'était ordinateur, structure, structure, structure. Puis ce petit 2 heures avant tout le monde, si on veut, là, me permettait justement de, tu sais, de bien planifier mes tâches, bien planifier mes sujets. Ça me permettait de... Puis en plus, j'étais à mon top d'énergie le matin. Puis ça m'a permis de traverser toutes mes journées de façon relativement efficace. Ce qui m'a un peu plus rattrapé, c'est... on va appeler ça la qualité des tâches. T'sais, à un moment donné, c'est bon. Là, on commence un poste, on est super fier, on veut réussir, on est orgueilleux. Mais là, à un moment donné, tu sais, c'est la gestion. C'est plus, oui, j'aurais une équipe de hackers, mais je fais plus de hacking moi-même. Fait que là, on se détache de quelque chose qu'on aimait beaucoup. Puis là, il y a une transformation qui doit se faire. Il faut se motiver à partir de d'autres choses. T'sais, avant, mettons, mon sentiment de réalisation, j'allais chercher en hackant des ordinateurs. Là, je dois aller le trouver en gérant de l'humain, tu sais. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, là. Ça a été très long, là. Puis pour être bien honnête, là, puis je sais même pas si j'aurais dire ça, mais mes premiers jours, là, tu sais, je continuais à faire du gros lab, puis c'était une grosse source de distraction d'ailleurs. Ça me permettait d'aller chercher de la réalisation, tu sais, montrer, hey guys, j'ai trouvé telle technique de bypass de ADR, puis tu sais, me trouver encore cool, entre guillemets, là. Mais ça pouvait pas scaler, ça pouvait pas suivre. Il fallait que je trouve des façons différentes. Fait que, bon, j'ai un peu divagué, mais on vraiment commencer tôt, augmenter le nombre d'heures dans mes journées. Ça m'a permis de commencer correctement. Mais en même temps, c'est un peu ce qui m'a rattrapé. Parce que quand on fait beaucoup d'heures dans une journée, puis qu'on se met à un peu briser son équilibre. Si j'augmente le nombre d'heures que je travaille, ça veut dire que je réduis le nombre d'heures que j'ai du temps personnel ou que je suis avec ma famille. Fait que là, cet équilibre de vie-là, quand il est brisé, ça peut nous jouer des tours. Exemple, quand on se motive seulement avec le travail, quand ça va moins bien au travail, ça va moins bien dans la vie complète. Là, Ça peut venir nous chercher un peu plus. On perd nos repères, puis tout. Là, ça a l'air full dramatique ce que je dis, mais c'était pas si dramatique que ça. Hein?
Non, mais c'est super intéressant parce que ça fait partie de ce qu'on est. Puis tu sais, je vais rebondir sur plein d'aspects. Puis dans le fond, je vais arrêter ton gros dramatique, je vais comme rebondir sur mes parties, puis tu reprendras après. Okay. Parce que ces éléments-là sont très intéressants. Puis j'ai été confronté à des éléments similaires, notamment dans le confinement, une momie face à des zones de moi qui sont autres. J'ai augmenté énormément ma charge de travail pendant le confinement, comme probablement la plupart des gens, parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire autre que ça. Et j'aimais beaucoup mon travail, donc j'ai investi beaucoup, beaucoup d'énergie dans ce que c'était à ce moment-là. Donc, tu perds un peu le contrôle de ce que tu es et de ce que tu fais. Mais aussi, en même temps, il faut se rappeler, puis ça, c'est ta définition, ce n'est qu'un travail aussi. Puis ça l'aide sur deux axes. En tout cas, dans mon cas, ça m'aide sur deux axes, c'est-à-dire que je prends rien personnel au travail parce que ce n'est qu'un travail. J'ai là pour faire une prestation qui est définie et il y a un début, une fin, puis j'essaie de naviguer là-dedans autant que je peux, puis le mieux que je suis capable pour aider de faire la prestation en question. Mais au-delà de ça, si mon travail se fait critiquer, c'est pas moi qui remets en cause. Ce n'est qu'un travail. Je peux être face à des gens qui sont mécontents. Fait que ça me sauve beaucoup à certains égards. Mais dans le confinement, j'ai perdu le contrôle. Puis ce contrôle-là que j'avais établi dans ma vie précédemment par instinct plus que par connaissance, élément conscient, c'est complètement déréglé. C'est-à-dire que j'avais plus d'heures de lever, d'heures de coucher. Mes routines étaient brisées. Tout a été brisé pendant à peu près la première année de confinement. Et là, la deuxième, je me suis rendu compte que ça pouvait pas durer comme ça parce que j'allais finir par exploser. Ça avait juste aucun sens. Et de là, puis je reprends un peu tes choses, je me suis mis une heure de lever fixe, je me suis mis une heure de coucher fixe. Et là, je me suis dit, j'ai une plage définie et je vais vivre dans cette plage définie-là. Et je ne peux pas dépasser, je ne peux pas exagérer. Mais ça force la chose, ça entraîne le corps aussi, fait que ça permet de s'endormir rapidement parce qu'on entraîne le corps à toujours être à la même routine, dans le même élément. Ça a été un des éléments. Le deuxième, c'était la réintroduction du sport dans ma vie. Et c'était à ce moment-là, à tous les matins. Tous les matins, j'allais faire ma marche, j'allais faire mon jogging, j'allais faire des choses comme ça, tous les matins, sans exception. Là, les gens me trouvent un peu fou parce que passer de rien du tout à faire ça comme ça, les gens ont comme l'extérieur, mais ça donnait une routine et ça me donnait un appui. Et justement, quand tu parles de réinsérer des éléments, ça, c'est mon exemple à moi, là, il y en a plein d'autres. J'ai réinséré une structure où j'en avais perdu, ce qui m'a essentiellement sauvé la vie à ce moment-là parce que j'aurais probablement pété aux frettes. Ça, c'est littéralement dans ces moments-là de ne pas avoir réintégré ces différentes choses-là dans ma vie. Et je vais te laisser tomber dans un bout peut-être un peu moins dramatique de ton histoire.
Non, mais on n'en parle pas assez de l'importance de bien s'entraîner, manger, penser à soi, dormir. Tu sais, je sais que c'est basic puis que ça fait un peu redondant, là. Ça fait un peu, je sais pas moi, papa, maman qui donne des leçons de vie. Mais sincèrement, moi, ça m'a changé aussi, là. Je m'entraînais très casual, là, tu sais, 2 à 3 fois semaine, 30 minutes max. J'ai tranquillement augmenté le rythme puis tu sais, j'ai juste augmenté. En fait, j'ai augmenté toutes mes performances overall. Là, je me sens plus en forme, j'ai plus d'énergie, je peux être meilleur avec ma famille, meilleur au travail. C'est rendu sacré, c'est rendu en fait que dans ma... Si on avait un boulier, là, pas un boulier, mais une pie chart là, avec des priorités, là, tu sais, ma pointe de tarte, vie perso, là, puis entraînement, c'est rendu au top. Là. En fait, je bâtis le reste autour de ça. Puis j'ai le privilège de faire ça parce que là, je suis en démarrage d'entreprise, mais avant, ce que je faisais, c'est qu'à la fin de la journée, j'allais m'entraîner, puis ça coupait ma journée en deux. J'avais l'impression quand je finissais que la soirée était plus à moi. Bien sûr, je retournais travailler, mais ça, c'est des mauvais patterns. J'ai réussi à casser avec le temps. Mais non, c'est ça. Tu sais, mon triangle, j'ai un peu bégayé en disant, quand on mange bien, nos performances d'entraînement sont nettement supérieures. Puis quand on s'entraîne fort, ben, on dort mieux. Puis c'est un cercle qui tourne. Puis c'est vraiment fondamental. C'est ça qu'on oublie des fois quand on. Puis là, après, ce qui arrive, c'est quand on veut aller trop vite parce que tu il y a un lien. On peut tout aller vite. La pandémie a fait qu'on travaille tout à distance. On en fait plus. Quand on va aller trop vite, c'est là qu'on tombe dans des raccourcis comme on va prendre des pilules pour maigrir. Ben oui, quelle bonne idée. Ou on va se remplir de... avoir besoin d'une application pour mieux dormir. Tu sais, je veux dire, OK, il y a plein de trucs là, qui peuvent marcher, mais à un moment donné, quand on se met à mettre des plasters partout, c'est juste parce que dans le fond, tu pourrais mieux manger puis prendre plus d'heures pour dormir. C'est un peu, moi, je trouve ça triste là, d'avoir des gens chercher des raccourcis quand, dans le fond, la base est quand même simple. Mais bon, ça, c'est mon avis.
Oui, parce que ça reste dans les structures simples. Ça reste toujours dans des choses élémentaires. Là, tu parles justement comme ça. En même temps, comme parent, je laisse mes enfants explorer leurs choses de vie. Fait que je suis très peu contraignant de ce genre de choses-là, outre que des techniques qui font des choses qui sont louches. Là. Justement, comme pas mettre de manteau l'hiver ou des choses comme ça. Mais en même temps, je ne suis pas une référence parce que je ne mets pas tant de manteau moi non plus l'hiver. Enfin, j'en ai pas de besoin. Puis ça arrive aussi de tous les éléments comme ça, mais je les laisse expérimenter leurs choses pour baliser. Puis c'est un peu ça qu'on a perdu, d'expérimenter comment on est et comment s'adapter à qui nous sommes. On fait juste prendre une formule prescrite. Puis on dit, tout le monde fait ça, fait qu'on va faire comme ça. Ben non, c'est pas comme ça, c'est pas comment on est adapté, comment c'est par rapport à nous et comment nous, on réagit à ce genre de choses-là. Donc, il faut faire les vrais efforts. Là, j'ai fait, comme dans son cas, je me suis discipliné, j'ai toujours mes heures. Là. Moi, j'ai mon téléphone qui me sert de balise. C'est lui qui vient mettre mes balises, qui me rappelle que j'ai pas fait mon exercice, qui me rappelle à l'heure que je vais me coucher, et ainsi de suite. Donc, il me permet de baliser ma vie. Mais il permet, c'est pas lui qui prend les décisions à ma place, ça demeure mes éléments. Et en même temps, je sous-traite la décision, parce qu'on veut revenir au contexte décisionnel, sous-traite ma décision à mon téléphone. Et là, je prends pas de décision. Lui me dit, ben, tu dois faire, tu n'as pas fait ton exercice, va le faire. Là, je fais mon exercice. Et puis, comme tu le mentionnes, c'est ça aussi qui a changé pour moi dans le confinement. Avant, l'exercice était optionnel si j'avais le temps. Là, l'exercice n'est plus optionnel si j'ai le temps. L'exercice est là. Et ma vie est construite autour. Et l'ironie là-dedans, puis c'est pas la première fois que je le mentionne, c'est que plus on va s'entraîner, plus on passe du temps en famille, plus on fait des choses comme ça, plus on devient productif. Donc, ça a l'effet contraire de passer plus je vais travailler fort, plus je vais... Non, parce qu'il y a un seuil que tu l'es plus. Puis tu gagnes en capacité juste à consacrer du temps sur l'entraînement, consacrer du temps sur ta famille, consacrer du temps à des choses qui te sont chères aussi à certains égards de ce moment-là. Puis là, je vais te rebasculer sur ta transition comme gestionnaire parce que c'est un cas classique, du gestionnaire technique qui a de la misère à lâcher. Mais si tu lâches pas, tu vas juste finir par cramer aussi.
Oui, bien, j'aborderai le sujet de la qualité des décisions, la qualité des tâches. Je l'ai abordé un petit peu dans la présentation, mais il y avait une étude là-dessus. Il y a beaucoup d'études que j'ai pas pu toutes lire en profondeur là, parce que je me suis pris un petit peu en retard, mais il y en a une qui disait les tâches qui sont choisies par soi sont moins exigeantes qu'une tâche donnée par quelqu'un. En gros, c'est ça que ça voulait dire. Puis elle allait chercher plein de profondeur dans l'étude là, avec plein d'exemples. Je pourrais pas les citer aujourd'hui, mais ça, je l'ai vécu après quand là, je passe encore, là, on fait plus 6 mois, là, mais quand j'ai quitté, j'ai pris du temps pour moi, puis là, j'ai parti mon entreprise, je me suis mis à faire plein de tâches qui avant me vomissaient, genre c'était pourri. Là. L'admin, la fiscalité, c'est des affaires qui m'écœuraient. Puis aujourd'hui, je le fais dans le sourire. Qu'est-ce qui a changé? Ben, je le fais plus pour moi. Ça fait plus de sens un petit peu. Puis ça fait toute la différence. Fait que tu sais, on parlait beaucoup d'empowerment, tout ce que je travaillais avant, puis vraiment sentir que tu ownes ta shop, là, ton département, c'est beaucoup moins pénible que si tu sens que tu sais, on t'a donné quelque chose, on t'a donné un correct ordre que finalement tu voulais même pas avoir. Puis pourtant, c'est les mêmes tâches, c'est le même nombre d'heures dans une journée, mais il y en a un qui est plus drainant que l'autre. Beaucoup. Puis, peut-être pour revenir à mon. À quand j'étais justement directeur, il y a des tâches où c'était vraiment plus facile. Comment je dirais bien ça?
Il y a des âges que tu sentais qu'ils étaient de ta propriété en quelque sorte, là, que tu t'étais approprié ces tâches-là, donc qu'ils deviennent tiennes en quelque sorte. En plus, tu me parles d'empowerment, c'est un peu ça. Que tu fasses que ça devient, ça t'appartienne. Tu te sens inclus ou tu te sens autonome dans l'action. Quand il y en a d'autres, des fois, puis comme gestionnaire, parce que j'accompagne plusieurs gestionnaires, des fois, ça t'est garoché, puis tu dois juste traiter avec des dossiers qui te déplaisent à certains égards, là, puisque c'est pas toujours, tu sais pas, s'ils sont pas à toi, ils t'appartiennent pas, puis tu tombes dans les jambes, puis c'est plate.
Le top-down. Exactement. C'est ça que je cherchais. Tu sais, mettons qu'on comparerait le top-down du bottom-up. C'est quelque chose qui vient de moi que je veux convaincre l'organisation de faire. Je peux mettre infiniment d'énergie là-dessus. Mais si on me dit OK, il faut faire tel changement dans telle direction, je suis comme OK, ben c'est un peu plus difficile de se motiver. Mais ça fait partie de la game, puis à un moment donné, il faut embarquer, il faut le faire.
Je vais rebondir un peu. Puis là, si on bascule sur le côté vraiment cyber. Puis c'est ce que tu mentionnais un peu dans nos habitudes, on est un peu mal. Au-delà du fait, là, on parlait plus des individus, comme toi et moi, on travaille dans le domaine. Mais le domaine lui-même pour utiliser les termes dans ta présentation, est toxique, puisque les attentes, les mécanismes, tout ce qui est en alentour de ça nous place dans une situation désagréable qui ne nous permet pas de pleinement profiter. L'empowerment n'est pas nécessairement là ou n'est pas built-in dans notre domaine. Tu parlais des exemples de juste on se fait garrocher des alertes constamment. Puis c'est l'exemple le plus connu, mais pas le seul, qui permet justement de voir à quel point on se fait juste garrocher des choses en pleine face sans aucune capacité d'agir ou sans aucune capacité de faire quoi que ce soit. Puis ensuite, ben là, on est fâché, puis là, des éléments comme ça. L'exemple que j'aime bien, puis qui est en dehors de la cyber, c'est les personnes qui inspectent les bagages à l'aéroport. Ça, en parlant de job qui brûle le cerveau, ça, c'en a une, parce qu'ils passent à longueur de journée à regarder. Et la fatigue, au sens ou des vulnérabilités qu'on l'a vu en cyber, eux, c'est constant. Les autres, c'est leur job de regarder ça constamment. Et c'est pour ça qu'ils sont en rotation, parce qu'après un certain temps, ils ne voient plus rien. Le problème là-dedans, c'est que les organisations ne comprennent ou comprennent difficilement ces éléments-là ou ont pris du temps avant de le reconnaître, qu'on est des humains puis qu'on est limité en termes de capacité de ce qu'on a. Et ensuite, des journalistes qui font les grands titres parce qu'ils ont réussi à passer des éléments qui normalement auraient dû être interceptés à ces contrôles de sécurité-là. Là, c'est un peu l'exemple de genre l'équipe de Pentest qui va dire « Ouais, on va vérifier si l'équipe défensive est réveillée. » Fait que c'est le même genre de choses toxiques qui est négatif parce que ça dévalue le pauvre travail des gens qui regardent les à longueur de journée parce que c'est quand même, ça brûle le cerveau à la longue si t'es pas capable. Et de l'organisation de ne pas avoir justement reconnu d'avance qu'il fallait que les mettre les gens en rotation pour s'assurer que ça n'arrive pas. En compréhension de l'humain. Fait que je trouve ça. Puis on est beaucoup comme ça en cyber. Puis là, tu me donnes ton exemple de garocher ce gang de pas bons, ils font des choses comme ça. Ben oui, mais la réalité, c'est qu'on ne comprend pas qu'il y a des humains et que, ensuite, comprendre. Puis moi, je réalise, je suis beaucoup en risque et de remettre en perspective par rapport au risque. Est-ce que c'est si grave que ça, que ça allait passer? Est-ce que c'est si grave que ça qu'on ne l'ait pas fait? Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce qu'il y a des conséquences réelles pour l'organisation? En des cas, oui. Il faut s'énerver pour de vrai. Mais en général, non. Il n'y a pas de cas pour l'organisation qui sont immédiats, un danger réel dans lequel ils vont mettre l'organisation à risque.
En effet. Ah, ben c'est bien que tu ramènes ce point-là sur le pentest, parce que je me suis limité dans tout ce que je voulais dire, mais c'est vraiment un bon sujet, ça. Parce que le point ici, c'est que tout le monde est bienveillant. C'est ça qui est compliqué. Tu sais, les pentesteurs, je les adore, là. J'en ai fait longtemps, puis j'ai décidé de dédier ma vie à ça, la sécurité offensive, fait que j'adore vraiment ce domaine-là. Puis même si on est super bienveillant, la façon qu'on communique les findings, le risque, justement, tu sais, quand on le communique avec beaucoup de paranoïa, on peut, tu sais, le concept de crier au loup, là, je l'avais vu dans mes recherches d'ailleurs parce que c'est de la fatigue décisionnelle, en fait, de crier au loup. Tu sais, un enfant d'un village qui crie au loup, finalement, c'est une joke. Il crie au loup, puis le moment, il se fait dire, les villageois le croient plus. Puis là, à un moment donné, il arrive un vrai loup. Puis quand il crie, ben, tout le monde est dans le trou. Ben, c'est le même principe. Tu dis, ah, telle vulnérabilité, c'est critique, c'est VSS 10. Ouais, mais il y a telle condition, tu sais. Comme, guys, notre outil de communication, le bon vieux CVSS, il n'est pas bon. Puis après, ce qu'on demande, c'est que les organisations doivent contextualiser le risque. Fair enough, c'est une très bonne idée, mais c'est quand même dur à appliquer à haut volume. Puis ça, c'est parce que j'arrive d'une grosse organisation où il y a énormément de volume. Tu sais, mais à une petite entreprise, c'est faisable. Mais quand il y a trop de vulnérabilités à gérer, ben là aussi, tu te mets à faire des biais cognitifs ou faire des raccourcis. Là, tu sais. Puis ce que je trouve fascinant, c'est que tout le monde est bienveillant. C'est ça qui est compliqué. Genre, tu peux pas juste dire... on peut pas mettre la faute sur un ou sur l'autre. Là. Je pense que c'est juste l'outil de communication qui est déficient et non pas... Il n'y a pas de méchant là-dedans. Là. Tout le monde veut faire bien, tout le monde veut faire de la sécurité, tout le monde veut faire avancer l'organisation, mais parce que l'outil n'est pas adéquat, on se crée de la fatigue mutuellement. Puis qu'est-ce qui arrive après? Ben là, on en a nommé des conséquences dans la présentation. Les décisions sont moins bonnes.
Il y a un paquet de problèmes par rapport à ça, puis là, t'en nommes certains. Puis en plus, on amène dans un nuage de confrontation. Puis la confrontation amène aussi une fatigue supplémentaire parce qu'on est toujours en train de réfléchir à se prémunir contre l'autre parce que là, au sens où on présume que tout le monde est bienveillant, puis c'est un peu ça la position standard, c'est qu'on ne réfléchit pas que l'autre nous en veut, va nous couillonner, va nous faire quelque chose, mais quand on tombe dans un contexte de confrontation, mais on est toujours en train de réfléchir que l'autre va s'opposer, l'autre va dire des choses contre nous, l'autre va nous traiter d'incompétents, l'autre va toujours comme ça. Fait que c'est un peu comme dans cette perspective-là. Et ce qui est un peu malheureux avec les équipes offensives, c'est qu'ils ont tendance à vouloir démontrer que l'équipe défensive n'est pas bonne. En réalité, c'est pas ça qu'il faut démontrer. Il faut démontrer qu'il y a un problème qu'il faut résoudre et quand tout le monde est participant à résoudre ce dit problème-là. Parce qu'on tombe en confrontation, ben on coupe la communication. Puis là, ensuite, on devient hostile. Puis quand on coupe la communication, puis là, aussi bien qu'on est capable de faire quelque chose après ça, une fois que les personnes ont justement une perception négative de notre message, ben après ça, on n'est plus capable d'entrer dans une communication bienveillante, d'être capable de justement d'échanger de façon humaine, parce que ça revient à ça, on est des humains dans une grande organisation, d'être capable d'arriver à un objectif commun qui est d'aider l'organisation à prospérer et à grandir et dans notre sphère spécifique, d'être sécuritaire.
Avoir un sentiment de sécurité.
Un sentiment, oui. Oui, effectivement, parce que c'est la sécurité n'est qu'une émotion. Là.
Quand j'ai commencé, dans mes débuts, je pense que les équipes de défense demandaient beaucoup de choses, puis ils ne l'obtenaient pas. Fait que il est arrivé des tests qui ont brassé les cartes. Puis suite à ces tests-là, les équipes ont commencé à avoir un peu plus d'écoute sur okay, ça nous prendrait tel contrôle, tel outil, tel truc pour mieux faire notre travail. Mais tu sais, ils criaient. Mettons, on reprend l'analogie de crier au loup. Après, je ne suis pas sûr qu'ils ont fait d'exprès, là, mais ils demandaient, mais le message ne passait pas. Tu sais, quand on insiste trop, des fois, ça a l'effet inverse, d'avoir encore moins d'écoute. Mais ça l'a pris. On va appeler ça des incidents pour que la gestion fasse oh shit, ok, ça leur prend vraiment ce petit-là. Tu sais. Des fois, quand on crie trop fort pour avoir ce qu'on veut, on l'obtient juste pas. En tout cas,
notamment aussi parce que ça vient comme un bruit, on se transforme en bruit ambiant. Puis si on prend cet exemple-là de façon en communication plus large au niveau public à l'heure actuelle, pour moi, on a passé le point de non-retour où justement ce cri-là est rendu un bruit de fond que les gens n'écoutent plus. On est vraiment rendu à ce stade-là. Fait que pour nous, c'est ultra pénalisant comme situation, comme professionnel en cyber, puisque certains membres de notre communauté ont crié trop fort avec trop de négatifs dans le message qui était renvoyé, qui nous ramène dans une zone où on n'a plus d'écoute littéralement de façon publique de personnes. On va s'outrer sur la place publique, on va peu importe la stratégie qu'on utilise, ça l'a créé avec les années, puis là on le voit, puis ça redescend dans les organisations ensuite, parce que tu sais, sur l'espace public, ça a des aspects sur comment l'organisation se fait, là, tu l'as vécu, c'est que là, il y a une nouvelle, puis là, la haute gestion lit le journal, puis là, on va redescendre ça dans l'organisation ensuite, cette information-là. Même si ça n'a aucun lien avec l'organisation, même ça fait. Ensuite, de redire, on dit à la gestion, non, mais ça ne nous affecte pas à nous. Fait que plus en plus, ils vont cesser d'écouter ce message public-là. Et moi, j'en vois pratiquement plus maintenant de réaction immédiate entre ce qui est dans les médias et d'une commande, puisque la haute gestion, les clients que je travaille, se sont désensibilisés au message qui est véhiculé, parce qu'à chaque fois qu'ils redescendent le message, on leur explique. Moi, dans mon outil de communication, c'est l'analyse de risque. Fait que je prends l'analyse de risque, je le retourne vers le haut dans un langage qu'ils comprennent essentiellement. Et là, à ce moment-là, ils comprennent que le risque ne s'applique pas à eux, que c'est tout ce bruit médiatique-là n'est pas applicable à eux. Donc, tranquillement, on s'essaie d'écouter cet élément-là, parce qu'à chaque fois, on leur dit que ce n'est que du bruit. Fait qu'ils s'habituent à écouter le bruit comme toute chose, comme dans les organisations aussi, d'ailleurs, comme un peu comme dans ton exemple aussi. C'est-à-dire qu'on a besoin d'outils, ben, si on ne communique pas avec un langage qui permet, puis là, tu utilises d'ailleurs aussi du qualitatif vers le quantitatif pour rebondir sur ta présentation, de commencer à utiliser des chiffres. Les chiffres parlent à la haute gestion, le Kelly, ça ne parle pas tant à la haute gestion. Puis c'est un peu le problème, puis moi, j'aime pas beaucoup les analyses de risque qui sont très qualitatives, parce que j'ai pas de poignée, puis si moindrement quelqu'un veut dire que c'est pas bon ce que je dis, ben il a toute la capacité de le dire, parce que c'est mon ressenti face au ressenti de quelqu'un d'autre. Donc là, j'ai rien de... Dans ce temps-là, c'est juste un combat de ressenti, fait qu'on va nulle part. Fait que c'est juste de parler de nos émotions, puis dans ton temps qu'à ça, on va aller en thérapie ensemble, puis en thérapie de couple ensemble pour résoudre notre problème d'émotion qui concorde pas.
C'est exactement, wow, c'est tellement une belle façon d'amener le point. Parce que des fois, tu sais, les gens, ils sont... Moi, des fois, j'avais ce discours-là sur les KPI, et puis ça dérangeait, hein, parce que comment ça, il va falloir aller chercher des chiffres pour justifier ce qu'on veut faire. Ben, toutes les grandes organisations font ça, les amis, puis justement, mais tu as tellement bien imagé. On va pas faire des combats de coq, là, ou des combats de qui crie le plus fort, qui est le plus émotif, là. Ou le plus parano même dans notre industrie, tu sais, le plus parano l'emporte, mais ben non, ça n'aurait aucun sens. Très bien dit, non? Ouais. Après, c'est de l'amener. C'est un sujet intéressant, ça, générer de la métrique à partir de données de sécurité offensive. Ça sera un autre podcast.
Oui, absolument. C'est très, très complexe, parce qu'on va revenir sur le cadre même de ta présentation. On est rendu trop loin à ce genre de choses-là. Puis, je vais juste faire un dernier petit rebond sur ce segment-là spécifique. J'ai répondu, je me rappelle plus sur quel forum j'avais mentionné ça, qu'on parlait justement des CISO, l'importance d'avoir un CISO dans une organisation sérieuse. Ma réponse à ça, c'est que basé sur le post lui-même, des années 70, le CFO est apparu dans les organisations, parce que le CFO est une personne qui vient gérer le risque financier de l'organisation avec des indicateurs, avec tout ce que ça exige de gérer un risque financier. Donc, toutes les grandes organisations sont dotées d'un CFO parce qu'il y avait besoin de quelqu'un qui était capable de naviguer dans un monde complexe, qui est un monde financier, qui représente des choses comme ça. Donc, on met ça en place. Maintenant, on se pose plus de questions. Le CISO, c'est la même chose. Le CISO doit être capable de manœuvrer dans une organisation de façon, comme le CFO l'a fait, c'est-à-dire de prendre dans un univers complexe, parce que les TI, c'est complexe, la cyber, ça l'est, parce que ça a un lien très proche entre les deux, et d'être capable de gérer le risque comme le CFO gère le risque financier. Le CISO gère le risque cyber dans l'organisation pour avoir quelque chose. Donc, celui-ci, comme le CFO, a besoin d'indicateurs. C'est ça le lien avec le ce qu'on parlait. Un indicateur clair dans lequel il va être capable de gérer son risque, de prendre des décisions éclairées. Si tu reprends justement de baser du quali et quanti, ben on a besoin de... Le CFO ne fait pas sur une émotion ses décisions. Il prend ses décisions sur une base quantitative, analysée et ainsi de suite, plus un peu d'intuition pour son expérience. Mais en même temps, son étude expérience, c'est basé quand même sur du vécu qu'a fait le CISO. Le CISO doit se placer dans la même position par rapport à ce genre de choses-là. Si on revient un peu plus dans le cadre de ta présentation, c'est-à-dire notamment l'automatisation, la mécanisation, tu parlais de ça, mais comment, ou de décision inconsciente, de passer une décision inconsciente, de consciente à inconsciente, comment tu l'as fait? Puis je ramène un peu, parce que dans le fond, j'ai dévié très rapidement la conversation vers d'autres choses, mais comment tu as intégré ces éléments-là dans ta vie, dans ta profession, puis maintenant, ben, où tu t'en vas dans ta nouvelle aventure?
Mm-hmm. Ben, moi, ce qui marche avec moi en ce moment, là, c'est planifier tôt le matin, puis après ça, plus planifier, plus prendre, être plus pilote automatique le reste de la journée. Depuis que je démarre mon entreprise, la fin de semaine, c'est du temps créatif, parce que comme il n'y a pas d'horreur, j'ai le bon état d'esprit pour justement planifier ou juste explorer des trucs. Exemple, l'autre fois, je voulais regarder les meet-ups à Québec. Tu sais, je connais Québec sec, tous les trucs proches, mais je me disais, il y en existe-tu d'autres? Puis, y en a-tu d'autres qui sont pas en cybersécurité ou peut-être que je pourrais aller représenter la sécurité ou parler de sécurité ou connecter avec des gens d'un autre domaine? Parce que j'étais en ce mode-là en ce moment, faire partie de comité puis juste explorer un peu le marché. Ben, ça, j'ai pas dit de fin de semaine. C'est pas vrai que pendant une journée où ce que, OK, il faut que je fasse ça, j'ai des meetings, j'ai ici, je fais de l'admin, whatever. J'ai écrit une proposition pour un client. Je suis pas dans le bon état d'esprit du tout pour penser à comment créer l'avenir. T'sais, c'est comme, pour faire un parallèle avec les ateliers stratégiques, j'en ai fait plusieurs dans mon ancienne vie, puis il y en a qui appellent ça des off-site pour une raison. Parce que c'est off-site, parce que juste le fait de se louer une salle, sortir de l'environnement de travail, automatiquement, on devient plus créatif. Fait que c'est vraiment ça. Ben, des fois même, je joue dans ma maison, travailler un peu dans le salon, travailler un peu à mon bureau, puis promener comme ça. Ça a un effet vraiment c'est impressionnant, en fait. Oui. Tu sais, j'ai parlé du livre Atomic Habits à la fin de la présentation, puis il en parle beaucoup à quel point ton environnement peut influencer les habitudes que tu prends.
Oui, ah, absolument. Puis ça, je rebondis là-dessus parce que j'ai fait des découvertes. Le confinement a été un beau laboratoire, parce que dans mon cas, pour aller plus loin puis d'explorer un peu comment je me positionne dans tout ça. J'ai beaucoup voyagé pendant le confinement. Étonnamment, mais je suis de ceux qui ne sont pas sentis limités par cette situation-là et j'en ai profité. Malgré les contraintes que ça pouvait comporter, le fait d'être en déplacement amène cette créativité-là, notamment. J'ai même découvert jusqu'à un certain point que le télétravail avait des contraintes justement de limiter ma créativité, puisque d'être assis dans mon bureau et maintenant associé très fortement du travail, qui est très peu créatif, et du moment que je veux commencer à créer, il faut que je me place ailleurs. Puis là, avec le temps, il faut que je le comprenne. Je le verbalise. Puis suivant tout ça, là, je me déplace, je vais aller travailler dans des environnements autres, quitte à aller travailler dans un café, aller travailler dans un Tim Hortons, dans un Starbucks, ou peu importe, ou aller travailler quand j'étais à Montréal, disons à la Place Ville-Marie ou le gros espace, là, juste de m'installer là, de faire mes affaires tranquillement, me change d'état d'esprit et a un gain énorme. Puis ça, c'est une découverte spontanée que j'ai faite, que j'avais pas lu, mais c'est qui est nécessaire. Puis aussi, ben, pour certains, ça va sûrement parler, la douche est probablement l'endroit où les plus grandes idées émergent parce que c'est un endroit où tu n'es pas dans un contexte de productivité. Tu ne produis rien dans la douche, tu es juste pour toi finalement dans la douche.
Tant pour toi.
T'es dans un moment libre où ton esprit ne fait juste que laisser aller. Et c'est de cette image-là d'aller plus loin. Puis toi, tu as des beaux exemples. Puis même avant ça, tu le faisais, tu travailles le bois notamment, qui est un aspect, à certains pourraient le qualifier de méditatif, où tu fais juste comme te concentrer sur une activité qui ne demande pas de réflexion. Et c'est là que les bonnes idées émergent naturellement, parce qu'on est juste mentalement libre.
Totalement d'accord. En fait, il faut créer un rythme. Parce que quand tu fais du bois, justement, tu suis plein d'étapes prédéterminées. Tu sais, tu planes, tu dégauchis, tu rips, tu coupes, tu colles. C'est tout le temps les mêmes choses. C'est le plan qui va définir le résultat final. Puis rentrer dans des routines justement où tu répètes le rip and repeat, and repeat là, en anglais. Puis plus le projet est gros, plus il y a de la répétition. Puis laisse-moi dire que le sablage, c'est un bel exemple de répétition. Tu laisses ça
oui.
On a des heures. Puis là, aller de 60 degrés à 80 à 120. T'sais, des affaires, ça finit juste plus. Mais méditatif, c'est le bon mot. Là. Genre, c'est, je sais pas comment expliquer ça, mais cette activité-là que je fais par les soirs et fins de semaine, ça me réinitialise là, complètement du virtuel. Je passe de mes semaines devant quatre écrans là, à faire plein de choses. Là. Puis là, je deviens un peu stressé ou épuisé mentalement. Puis comme c'est fréquent, ben ça devient normal. Mais quand je fais du sport ou je m'en vais gosser dans mon garage, ben là, je reviens vraiment à un état normal. Puis là, je m'en rends compte. Là, je fais comme, hey, il faut vraiment que je garde cette habitude-là. D'ailleurs, je l'ai fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis je m'entraîne plus un peu, mais je le sens un petit peu. C'est faire des activités. Justement, c'est que tu n'as pas de micro-décision, en fait. Tu suis un plan, tu suis des étapes. Tu réfléchis pas, tu fais juste appliquer. Il n'y a aucune notion d'anxiété là-dedans. Là. Quand je suis dans mon garage, je me pose pas de questions. D'ailleurs, se poser des questions, c'est anxiogène. Je ne sais pas oui. si je l'ai dit dans ma conférence, là, mais.
Je pense, ça ne me dit rien, mais non, je ne pense pas que tu avais abordé l'aspect anxiogène. Des décisions, puis de. Ben là, on embarque, si on veut, vraiment dans le côté anxiogène et qui mène à de l'anxiété ou des crises d'angoisse, comme un peu comme tu mentionnais dans ta présentation. C'est cette espèce d'amplification, c'est ce qu'on appelle la chambre d'écho. Mais on est très bon nous-mêmes pour avoir notre propre chambre d'écho, de juste continuer à amplifier une pensée qui est souvent négative, puis qui va devenir tellement grosse et tellement présente dans notre esprit qu'elle prend toute la place et aspire tout oxygène et toute capacité qui est bienveillante aussi, notamment, là, qui nous rend stressés, qui nous rend malheureux. Mais le sport, on en a un. J'ai l'exemple de mon père. Lui fait du vélo, mais de façon assez importante. Là, on parle de plusieurs heures par semaine de vélo. Même dans le temps où il était encore actif, il y avait un travail, d'être à retraite, mais il en fait encore. Mais cet élément-là de juste laisser le vide prendre possession de nous. Puis ce vide-là a du bon, il recharge essentiellement la batterie que tu mentionnes. Là. Dans ta présentation, on est dans cet esprit-là de d'éléments comme ça. Je veux dire, moi, je fais mon jogging presque tous les matins. Là. Maintenant, je le fais pas tous les matins. Mais c'est toujours la même run. Je fais toujours le même parcours. Puis, tu sais, il y a des gens, tu vois, mais tu trouves pas ça plate. Ben, faut que ça soit plate. C'est l'objectif de la démarche. Faut que ça soit plate. Puis je suis le même chemin, puis je sais à quel endroit, parce qu'en plus, je le fais en séquence, c'est-à-dire que je marche, cours, en tout cas, bref, pour maximiser un peu le rendu, ça. Puis bon, j'ai un vieux corps, je suis plus capable de faire d'autres choses. Fait que c'est comme ça. Et je sais exactement quel endroit je vais marcher, quel endroit je vais courir. Puis c'est toujours le même affaire. Donc, il n'y a pas de surprise, autre que des fois, il peut y avoir de la glace. Mais ça, même avec le temps, je me suis débarrassé de cet élément-là, m'achetant des souliers à crampons pour courir. Mais je pense plus à rien, je fais juste courir. Je réfléchis même plus. Est-ce que je fais attention où il y a de la glace? Ouais. Je fais même plus ça. Je suis juste comme dans l'état libre de circuler et d'avancer vers la course, notamment.
Qu'est-ce que je peux rajouter à ça?
Non, mais je ne voulais pas tuer le sujet comme ça. Mais non. Ça en fait partie de ces éléments-là, de laisser croître le voyage, le fait que tu parlais de la coupure. La coupure de travail à la fin de la journée est nécessaire parce que travailler de façon continue pendant 12 heures ou 16 heures, comme j'ai déjà fait pendant le confinement, c'est malsain de faire ce genre de choses-là parce que tu n'as pas la coupure à la fin de la journée. Et c'est un peu comme aller en apnée. C'est-à-dire que tu peux penser que tu peux aller très loin, tu vas commencer. Puis à un moment donné, puis c'est ça que je me suis rendu compte en confinement. C'est un peu comme l'apnée. À un moment donné, tu commences à manquer d'air, puis là, tu ne comprends pas ce qui se passe, puis ça peut relater un peu, ça peut relater. Quel anglicisme pas beau. tu peux te rattacher à ça aussi. Toi aussi, dans ton expérience, à un moment donné, tu n'as plus d'air, puis tu ne comprends pas. Puis comme on n'est pas habitué de vivre, on ne nous a pas éduqués à vivre qu'il faut aller reprendre de l'air une fois de temps en temps, on oublie. Puis là, les autres autour de nous, puis on est un peu dans une espèce de... Tout le monde est un peu avec l'ego, comme tu mentionnais. Puis là, les autres continuent à nager, puis toi, tu fais comme, ouais, mais je manque d'air, là. Je peux plus faire ça, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est parce que toi, t'es ton corps n'est pas fait de la même façon, fait que faut que tu ressortes aller chercher ton oxygène. Et je m'en suis rendu compte, ça, assez tard quand même en confinement, qu'il fallait que je reprenne justement cet oxygène-là. Mais la pause du souper est un exemple de ça. Mais la pause, pas juste manger rapidement puis retourner au travail, arrêter. Juste le fait, après le confinement, ce que je faisais, c'est que je revenais du travail en auto. Je revenais à la maison, petite pause, parler avec ma blonde, parler avec les enfants, un petit moment comme ça, on soupe, on jase un peu après, puis ensuite, je recommence à travailler. Il y avait deux, trois heures d'espace, d'activité autre, qui était l'élément qui était nécessaire de reprendre mon oxygène et de ne pas vivre sur tes réserves. Puis ça aussi, c'est une autre affaire, puis ça, tu ne l'as pas abordé en présentation, je ne sais pas si tu l'as lu. Quand tu embarques dans tes réserves, ça devient dangereux, puis ça, je l'ai fait, puis je me suis récupéré à temps. Et quand tu t'en vas, c'est là que tu t'en vas en burn-out parce que tu as l'impression de continuer à pouvoir nager, pas d'oxygène. La réalité, c'est que tu brûles de tes énergies vitales qui t'amènent ailleurs. Puis qui t'amènent à un très mauvais endroit, d'ailleurs.
C'est à ce moment-là qu'on dit que c'est tout le temps la faute des autres puis que tout est une montagne parce que justement, tu n'as plus d'énergie pour le reste. En fait... J'ai dû le frôler, cet état de fatigue-là. Quand si j'avais à décrire un peu c'est quoi, en tout cas, ma définition d'une crise d'anxiété, puis après, c'est de la psychologie, chacun le vit de façon différente, là, mais moi, ça m'a vraiment paralysé. Je n'étais pas capable de travailler. Je tape là, centaines de mots minutes normalement. Là, j'étais là, puis qu'est-ce que je fais? Une journée normale, là, un mercredi, tu sais. Ah oui, puis ça venait avec un mal de ventre avant. Moi, l'anxiété n'a jamais été physique. Jamais. Je suis quand même stoïque, puis calme, puis zen comme personne, relativement naturellement. Mais là, stress qui devient mal de ventre, qui devient overwhelm, tu sais, boucan, là, genre, juste plus capable de réfléchir. Puis en 3-4 jours, boum, c'était réglé, là, un dit d'après. Ben, quelques mini-séquelles, mais c'est vraiment particulier. Puis ça, tu fais ça une fois, tu fais comme, OK, non, la vie mérite d'être vécue, fuck that shit, je vais travailler. Puis c'est vraiment tout à partir de cet incident-là, là, où j'ai cherché, lu, informé, parlé de ça avec des amis, pas regarder ça en dedans, là, tu sais, ça donne à rien là, de jouer l'ego là-dessus, au contraire, là, tu sais. Puis en fait, le fait d'en avoir parlé, là, j'ai pu connecter avec des gens là, au Secure, là, qui. J'ai au moins deux cas vraiment. C'était des belles discussions après. Là, j'ai vécu des enfants similaires. Merci, c'était malade. Puis un autre qui lui aussi a slacké, qui c'est un STD workaholic intense, pardon. Puis il a slacké suite à un truc. C'était pas de l'anxiété, c'était autre chose, mais quand même. Fait que tu sais. Tu sais, il y a un concept que j'ai abordé dans la présentation, c'est que la fatigue, c'est un état. Puis, je voulais surtout dire, je l'ai précisé, un état temporaire. Parce que, tu sais, tu fais de la course. Tu cours, tu marches, justement, parce qu'à un moment donné, tu atteins un certain niveau de fatigue. Oups, on va slacker, je veux pas me blesser. C'est un état, tu sais, il faut pas avoir peur d'y toucher. Le problème, c'est quand ça devient chronique. Tu sais, c'est ça qui fait grandir, là. De se brûler, se donner à fond, slacker, prendre une pause, récupérer, se donner à fond, récupérer. C'est la même chose pour le cerveau, à mon avis. À force de conditionner, prendre des décisions, mais en se donnant du repos, t'sais, on peut, à mon avis, on peut l'augmenter, cette batterie d'énergie-là. Puis comme je disais en terminant, c'est à mon avis, s'entraîner à faire des choses toujours un petit peu plus difficiles. Puis ça, je ne l'ai pas dit, mais dans le livre Atomic Habits, il disait qu'il faut faire des choses 4% plus difficiles. J'ai aucune idée comment il a trouvé ce chiffre-là, mais je trouvais ça intéressant parce que c'est pas beaucoup, tu sais, c'est juste des petites marches. Puis ça fait du compound interest après de l'intérêt composé.
Il disait, oui, intérêt composé.
il disait les habitudes, c'est l'intérêt composé du développement personnel. Je trouve trouvais ça vraiment brillant comme citation.
C'est une très belle phrase. Ça résume beaucoup comment je me suis développé dans le temps où tout est devenu des habitudes. Moi, le plus vite que je peux basculer quelque chose dans une habitude où j'ai plus besoin d'y réfléchir. Le seul problème à ça, c'est que quand tu sors un peu de l'habitude, là, tu as l'air d'un bouffon parce que tu fais un geste un peu par rapport parce que, bref, il ne fait pas référence au contexte parce que tu n'es pas dans le contexte, tu es vraiment dans ton exécution, pur et dur. Mais au-delà de ces petits moments cocasses-là, en général, ça me sauve tellement d'énergie faire ça comme ça que ça en vaut le coup. Puis ça, je l'ai fait de façon instinctive quand j'étais beaucoup plus jeune pour des raisons que je commence à comprendre maintenant en vieillissant, en prenant de l'âge et de l'expérience. Maintenant, je suis capable de décomposer et de comprendre pourquoi j'avais pris ces décisions-là à ce moment-là et j'avais trouvé un point d'ancrage pour moi qui était très intéressant sur ça. On va conclure sur ces belles paroles-là. C'est très intéressant comme conversation. Comme tu l'as mentionné, on va reprendre d'autres. On va commencer à enregistrer de façon fréquente ensemble. J'ai très hâte parce qu'on va aborder des sujets comme ça un peu plus humains, mais en même temps, on va mélanger ça avec des sujets techniques de nos expériences et tout ça. J'ai très, très hâte de commencer ces épisodes-là.
Hey, avec plaisir. Ben, merci à toi. C'était super intéressant. Fais ça quand tu veux.